Alors, bon après-midi à nouveau. Veuillez prendre vos crayons pour être capable de prendre en note certaines choses. Nous allons nous amuser un peu. Donc, écrivez d'abord dans la colonne les chiffres suivants. Écrivez 3450. Donc, 3450. Et en dessous de cela, écrivez 3880. 3880. Ensuite, écrivez 1443. Puis, en dessous de celui-là, écrivez 1873. Ensuite, une couple de chiffres ou de nombres supplémentaires. D'abord, 1683, 1683, et en dessous de ça, écrivez 240. Et finalement, 430. 430. Vous devriez normalement avoir sept chiffres à cet endroit maintenant. Alors, on peut se demander, que veulent-ils dire? Nous allons découvrir immédiatement ce qu'est le premier. Peut-être est-ce que vous savez déjà ce qu'ils sont. Je devrais peut-être m'arrêter une trentaine de secondes et vous laisser essayer de deviner ce qu'ils sont. Je pourrais même vous donner quelques mots après chaque chiffre. Et je vous ai même donné un indice sans le vouloir. Alors, savez-vous ce que sont ces chiffres? Aujourd'hui, c'est le 3450e anniversaire du jour où Dieu a conduit son peuple hors de l'esclavage d'Égypte. Nous savons qu'Israël est sorti d'Égypte lors du premier jour des pains sans levain et que ce festival a été observé pendant plus de la moitié du temps de l'existence de l'homme sur la terre. Mais savez-vous que le premier jour des pains sans levain est aussi l'anniversaire d'un autre événement encore plus ancien que cela, que la sortie d'Égypte? Ce jour est en réalité le 3880e anniversaire d'un autre événement très important, d'un événement en fait qui est extrêmement important et qui est en quelque sorte la prémisse sur laquelle repose tout le reste du sermon. Combien y en a-t-il parmi vous qui savent ce que c'est? Alors, vous n'avez pas besoin de me répondre, écrivez la réponse tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3880 années à partir d'aujourd'hui? Alors, rendez-vous dans Exode 12, Exode chapitre 12, et au verset 37. Israël sort d'Égypte. Alors, lisons. Alors, il reste encore un petit peu de mystère. Vous savez que nous avons d'autres chiffres ici encore. Alors, nous avons 1683, nous avons 240. Nous avons 1873, 1443 et 430. Alors, nous avons déjà la signification du premier. Nous avons identifié le deuxième, mais sans dire exactement ce que c'était. Alors, commençons à le faire maintenant. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, hein, qui signifie tente. On célèbre la fête des tentes, les Juifs célèbrent la fête des tentes, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans des enfants. Alors vous vous demandez parfois où nous allons chercher le nombre de 2 à 6 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. Cela représente à peu près 20 à 60 fois le nombre de personnes qui pourraient être accueillies dans le stadium de football ici en Ohio. Donc, vous n'avez qu'à imaginer 600 000 hommes avec leur épouse plus leur famille. Alors, les familles étaient quand même assez nombreuses. C'est pourquoi nous avons un écart assez considérable de 2 à 6 millions. Vous n'avez qu'à vous imaginer un groupe de cette taille-là qui est en train de sortir d'Égypte. Pas question pour eux autres d'aller au motel du coin. Donc, ils se sont rendus à l'endroit des tentes, à Sukkot. 600 000 hommes de pied, sans des enfants, et bien entendu, il y avait aussi les femmes. Et une multitude de gens, hein, une foule de toute espèce montèrent avec eux. Alors on se demande, est-ce que c'est quelque chose qui est en plus de le nom, du nombre qui a été nommé avant? Vous savez que j'en ai parlé dans un des livres que j'ai écrit, Is the work finished? Et cette grande multitude est en quelque sorte une préfiguration de la grande foule qui va venir avec le reste d'Israël plus tard, hein, les 60 millions de personnes. Et cette multitude va arrivé avec Israël 2 ans et demi après le début de la grande détresse, suite au travail que cette œuvre ici est en train d'accomplir. Alors, je ne sais pas s'il s'agit ici d'un nombre additionnel à ce qui était là. Alors, on voit que c'est écrit, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Donc, ça semble être additionnel. Et on dit bien au début, dans le verset 37, que ce sont les enfants d'Israël qui partirent. Donc, il semble bien que ce soit des centaines de milliers additionnels. Et on se demande combien de personnes au total tout cela se faisait, hein? Combien de millions? Frères et sœurs, il n'y a jamais rien eu de si énorme, hein, de si volumineux dans toute l'histoire humaine que cette migration-là. On entend parler parfois de la migration des Indiens vers l'Amérique, hein, des Indiens qui descendaient sans doute de Tiras, ou ce qu'on appelle les descendants occidentaux de Tiras, parce que Tiras lui-même s'est rendu en Grèce dans le temps. Alors, on peut se demander à un moment donné comment certains groupes ont pu se rendre un peu partout dans les îles. Comment est-ce qu'ils ont pu sculpter des statues, comme celle de l'île de Pâques, par exemple, ou les Mayas et les Aztèques avec leurs temples et leurs statues. Alors, on se demande parfois d'où venaient ceux qui ont créé toutes ces grandes civilisations-là. Les évolutionnistes, bien entendu, disent que ces gens-là ont évolué, mais nous savons très bien que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Nous savons qu'il y a eu des migrations très importantes qui ont eu lieu. Mais dans ce cas-ci, le monde n'a jamais rien vu de semblable. Alors, il n'était pas question pour eux de monter à bord de train ou d'automobile ou d'avion. Hein. De toute façon, il n'y en aurait pas eu assez. Donc, ils partirent de là. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Alors, essayez de vous imaginer ça. C'est presque incroyable. Hein. C'était un événement qui était si considérable qu'il était absolument impossible que le monde n'en soit pas averti. Et pourtant, le monde en a perdu le souvenir, ne s'en souvient pas. Et peut-être même vous-même ne vous êtes-vous jamais arrêté pour réfléchir quelques instants à l'énormité de ce phénomène-là. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. Le verset 40 nous dit « Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. » Le sens réel de ça, tel que c'est écrit en anglais, c'est le séjour des enfants d'Israël qui allèrent en Égypte, qui furent en Égypte, fut de 430 ans. Il a été complété, il compléta le 430 ans à partir de ce moment-là. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alors, on peut se demander, 430 ans à partir de quoi? Donc, il y avait eu quelque chose qui s'était passé, il y avait de cela 430 ans, jusqu'à ce jour même. Et il s'agissait d'un événement qui était encore plus important que celui-ci là, que nous sommes en train de regarder, pour le monde en général. Et vous avez eu le temps de voir que celui-ci était un événement qui était énorme. Mais cet événement-ci qui se déroulait n'était en fait qu'un anniversaire d'un autre événement qui était survenu 430 ans auparavant, le jour même, qui devrait aussi s'être déroulé le premier jour des pains sans levain. Est en soi un point intéressant aussi. Alors, on n'a pas dit encore ce que c'était, bien que certains parmi vous l'avaient peut-être deviné, mais ça avait définitivement à voir également avec les pains sans levain. Bien que les jours des pains sans levain, à ce moment-là, n'étaient pas encore observés. Donc, ce premier jour des pains sans levain était le 430e anniversaire d'un autre événement qui s'était passé 430 ans auparavant et qui était très important. Si vous reculez 430 ans, vous arrivez à l'année 1873 avant Jésus-Christ. 1873 avant Jésus-Christ. Vous me demandez comment vous faites pour savoir ça. On sait que l'Exode a eu lieu en 1443 avant Jésus-Christ. Hein, c'est sur votre liste. Donc, vous savez maintenant ce qu'est le 1873. C'est 430 ans avant le 1443 de l'Exode. Mais on ne sait toujours pas quel est l'événement qui a eu lieu à ce moment-là. Alors, rendons-nous dans Galates chapitre 3. Donc, Galates chapitre 3. Parfois, je vous donne des sermons et je vous dis, vous ne verrez plus jamais tel événement de la même façon à partir de maintenant. Alors, je vous dis aujourd'hui que vous ne verrez plus jamais les pains sans levain, hein, en général, ni le premier jour des pains sans levain de la même façon que vous le faisiez auparavant. Pendant l'heure et quart qui nous reste à peu près. Donc, Galates 3, et nous allons commencer au verset 16. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition, le mot grec ici c'est testament ou alliance, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Plus tard quand? Après Abraham. Il y a donc quelque chose au sujet d'Abraham qui ne peut être annulé ici, hein, pour que la promesse ne soit plus valide. Alors, arrêtons-nous un peu et regardons certains indices. On voit qu'il y a eu une promesse quelconque qui a été faite à Abraham 430 ans plus tôt, hein, avant que la loi ne soit donnée. Verset 18, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce. » Pourquoi donc la loi? Alors, nous savons que la loi a été ajoutée à cause des transgressions. Hein? On parle là du livre de la loi, et non pas des 10 commandements. Hein? Jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, on parle de Moïse ici. Or, le médiateur n'était pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Donc, Moïse était le médiateur entre Dieu et une autre partie. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Le livre de la loi n'est pas contre le plan de Dieu. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Hein? Tout ce que les gens auraient à faire, c'est observe cette loi-là, puis tu vas avoir la vie éternelle. Mais il n'y a aucune loi qui existe qui permette d'avoir la vie éternelle, incluant les 10 commandements. Pas plus que le livre de la loi, hein, avec tous les sacrifices, les libations et les ablutions. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Nous devons donc avoir la foi en un Sauveur et dans le fait que nos péchés peuvent être pardonnés avant de pouvoir obtenir la vie éternelle. Mais nous devons quand même observer la loi. Je parle des 10 commandements. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Hein? Nous étions sujets à la peine de mort. Donc nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Nous étions dans une position de prisonnier où nous ne pouvions absolument pas nous échapper. Aucune chance pour la vie éternelle. Jusqu'à ce que cette postérité-là unique provenant d'Abraham vienne et rende le salut accessible à tous. Il n'y a aucune loi qui pouvait faire ça. Donc, c'est un point de compréhension générale, si vous voulez. Ce n'est pas le sujet du sermon comme tel. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Alors, on parle ici du livre de la loi. Alors, je pensais, lorsque je préparais ce sermon-là, que je devrais préparer une série de sermons sur l'Épître aux Galates. Ça permettrait de donner un croc en jambe à des millions de protestants qui disent tous qu'ils n'ont pas besoin d'obéir à Dieu à cause de ce que c'est qu'ils lisent, eux, dans l'Épître des Galates. Il n'y a aucun des apostats qui comprenait ce qui est écrit dans ce livre-là, après que l'Esprit-Saint les eût quittés ou qu'ils ne l'aient jamais eu. Ils ont pu tromper la majorité de l'Église et les ramener à leur ancien amour, hein, les luthériens, les baptistes, les presbytériens, les méthodistes et même catholiques. Verset 25, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Hein. » Alors, on parle toujours du livre de la loi, où nous sommes obligés de sacrifier des pigeons, des chèvres, des brebis, etc. « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, qui est la postérité d'Abraham, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon, et voici deux mots très importants, la promesse. » La promesse. Une incroyable et extraordinaire promesse a été faite en 1873 avant Jésus-Christ, ce jour même, lors du premier jour des pains sans levain, 430 ans avant la sortie d'Israël d'Égypte. Ce n'est donc pas par accident que la promesse avait été faite ce jour-là, et ce n'est pas non plus par accident que ce soit ce jour-là que Israël se soit mis en marche pour hériter la promesse. pour hériter de la terre promise. Alors, rendez-vous maintenant dans Romains 4. Alors, nous allons développer un petit peu ces choses-là avant de poursuivre pour d'autres choses fascinantes. Alors, Romains chapitre 4, et nous allons commencer au verset 12. Alors, commençons au verset 11. « Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, on parle d'Abraham ici, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. » Alors, les Romains étaient aussi des païens à cette époque-là, pour que la justice leur fût aussi imputée, hein, parce qu'aux yeux de Dieu, les païens n'ont aucune différence avec les Israélites. En fait, s'ils sont convertis, ils sont même bien en avant des Israélites. Rappelez-vous seulement la série sur les 144 000, où il est dit que Dieu ne fait aucune différence. Lorsqu'on parle de juifs ou de grecs, hein, on parle de la différence entre un païen ou un Israélite. Verset 12, « Et le père des circoncis, on parle de circoncision spirituelle ici, qui ne sont pas seulement circoncis, et on parle de circoncision physique ici, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. » Alors, on peut se demander de quelle foi qu'il s'agissait ici. Alors, nous allons avoir l'occasion d'y revenir et expliquer ça un peu plus en profondeur. Nous préparons tout simplement le terrain. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Donc, vous venez maintenant d'avoir un autre indice. Abraham, en 1873 avant Jésus-Christ, a fait quelque chose qui non seulement lui permettait d'obtenir l'héritage du monde, mais il a ouvert le chemin pour tous ceux qui suivraient après lui, qui seraient aussi ses enfants, comme le Christ l'était, si, hein, et si seulement il marchait sur les traces de la foi d'Abraham, celui qui est souvent appelé le père des fidèles. Alors, nous parlons quelque chose d'assez incroyable ici. Hein, suivez-moi bien. Quel était le chemin, hein, quelles étaient les conditions que Dieu voulait qu'Abraham suive, afin qu'il puisse se qualifier pour hériter du monde? Alors, on parle de la terre entière ici, dans Genèse 17. Alors, nous allons lire à ce sujet-là, parce que cela est en relation directe, hein, que vous pouvez déjà déceler dans la petite partie du sermon que nous avons donné, non seulement avec les pains sans levain en soi, mais spécifiquement avec le premier jour des pains sans levain. Donc, Genèse 17 et verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » El Shaddai, marche devant ma face. Alors, nous avons encore ici le même mot, marche. Et sois intègre. Et la signification du mot, si on regarde en marge du texte, signifie bien intègre, sincère, droit, marche devant ma face et sois intègre, hein, et sincère. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla. Alors, vous avez cet homme-là qui est aplati par terre, le visage contre terre, tout à fait renversé que Dieu soit venu vers lui. Le Dieu qui se décrit ici comme étant le Dieu Tout-Puissant. Dieu a plusieurs noms. Alors, il lui a pas dit là, qu'il était le Dieu qui guérit, chose qu'il aurait pu faire, mais ce n'était pas ça qu'il voulait faire paraître à ce moment-là. Ou encore Met Kedishkem, peut-être le plus difficile à prononcer, qui est en quelque sorte Yahvé, notre bannière. Mais il a préféré dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et il y avait une raison à ça. Ce qu'il était en train de dire à Abraham, en fond, c'était « Je suis suffisamment puissant pour réaliser ce que je te dis. » Donc, je ne suis pas seulement Dieu, hein, je suis le Tout-Puissant, El Shaddai. Je suis l'être le plus puissant de tout l'univers. Donc, porte bonne attention à ce que je te dis qui va arriver. Et je nous dis la même chose à chacun d'entre nous, au fur et à mesure que nous poursuivons notre étude. « Voici mon alliance que je fais avec toi. » Tu deviendras père d'une multitude de nations. En fait, on pourrait regarder plusieurs passages dans Genèse, en commençant en fait par Genèse 12, où il a dit, « Je ferai de toi le père d'une nation. Je ferai de toi une grande nation. » Il lui dit qu'il va le rendre fécond à l'infini. Ensuite, il va lui dire qu'il est comme le sable de la mer à un autre endroit, puis aussi nombreux que les étoiles du ciel à un autre endroit encore. Puis tu seras une nation et une multitude de nations aussi, dans le chapitre 35. Mais il dit de telles choses un peu partout, il va même jusqu'à augmenter encore ceci. Mais juste ce qu'on voit ici au chapitre 17 est déjà assez étonnant. Si quelqu'un vous disait à vous que non seulement il ferait de vous le père d'une nation, mais de plusieurs nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Il n'avait même pas encore d'enfant, et il lui parle de plusieurs nations. Donc, il va y avoir plusieurs nations qui vont sortir de lui. Il devait se demander comment. Hein? Il devait se dire, j'ai 99 ans. Ça va réfléchir. En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Hein? Je l'ai fait, j'ai été créé. C'est pareil comme si tout s'était réalisé. Je suis El Shaddai, le Tout-Puissant. Je te rendrai fécond, hein? Voilà, à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et je suis plutôt certain qu'il n'était pas debout encore à ce moment-là, lorsqu'il entendait ça, mais qu'il avait encore le visage contre terre, complètement abasourdi, alors qu'il entendait ce que le Dieu Tout-Puissant était en train de lui dire en 1873, avant Jésus-Christ. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu, à tous ces gens qui vont descendre de toi. Cette grande multitude, non pas d'une seule nation, mais de plusieurs nations, et de rois. Donc, tout à fait incroyable. Alors, c'est pour le moins une déclaration extrêmement importante qu'on peut savourer avant de poursuivre. Si vous entendiez ce genre de choses dans votre conversation quotidienne, bien entendu, je fais des blagues ici, avec Dieu, ça serait à vous couper le souffle. Vous avez pratiquement 100 ans et vous entendez dire cette chose-là. 5 chapitres auparavant, vous avez obéi à Dieu. Hein? Ça fait 24 ans, vous avez laissé votre pays, votre patrie. Vous êtes tout simplement mis en marche hein? Parce que Dieu vous avait dit, « Lève-toi, va-t'en, sors. » Et comme j'en ai fait l'analogie à plusieurs reprises, lorsque nous parlions des ministres dans l'ancien temps, on lui disait « t'es transféré ». Alors moi-même, j'ai été transféré combien? 5, 6, 7 fois? Et on me disait « va-t'en hein? ». Mais on me disait toujours où j'allais. Mais en ce qui concerne Abraham, il a tout simplement dit « prends tout ton bagage, mets ça dans le camion de déménagement, puis pars ». Mais où est-ce que je vais? Et je te le dirai plus tard, tu as tout simplement à partir. Conduis, et tu le verras bien. Alors, dès cet instant-là, ça prenait de la foi. Donc, nous voyons cette formidable promesse qui a été faite à Abraham, une promesse qui n'a jamais été faite à qui que ce soit d'autre et qui ne se fera jamais à un autre individu. Dieu a établi à ce moment-là une alliance d'obéissance avec Abraham et sa postérité, de façon à ce qu'il puisse se qualifier pour hériter la terre. Et aujourd'hui, c'est le 3880e anniversaire de cette alliance-là. Et, frères et sœurs, les termes de l'entente sont exactement les mêmes. Alors, il est vraiment incroyable que tant de personnes qui croyaient comprendre ce genre de choses-là, qui peut-être ne l'avaient pas compris, ont pu croire que des hommes puissent changer cette entente-là. Les conditions sont exactement les mêmes qu'elles étaient. Alors, essayons de jeter un coup d'œil dessus. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Sois parfait. Alors commençons en nous demandant « Que signifie marcher devant ma face ?» Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ce n'est pas une question de se rendre au troisième ciel et marcher devant Dieu, là. Et on le voit nulle part dans la Bible que Dieu soit venu sur la terre ici et qui est passé jour après jour avec Abraham qui marchait devant lui non plus. Alors que veut dire « marcher devant ma face » Rendez-vous dans 1 Roi au chapitre 2. 1 Roi 2. Dans ce genre de choses que nous devons comprendre, frères et sœurs, parce que ça s'applique à nous autres, comme nous l'avons vu dans Galates. 1 Roi 2 et verset 1. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. » Alors, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hein? « Fortifie-toi et sois un homme. » Chaque père, une fois au moins dans sa vie, et sûrement vers la fin de sa vie, devrait prendre avec lui celui qui a été son petit enfant autrefois et qui est maintenant un fils plus âgé, et dire ce genre de choses-là, comme David le dit à Salomon ici. Et je trouve que j'ai été béni, dans le fond, d'avoir un père qui m'a enseigné par des gestes ou par des paroles qu'il a utilisées et qui m'a expliqué ce que signifiait d'être fort. Je suis donc éternellement reconnaissant envers mon père d'avoir été comme ça. Fortifie-toi et sois un homme et montre aux autres que tu es un homme. Peut-être qu'il ne se sentait pas vraiment un homme à ce moment-là, puisque son père était en train de mourir. Ce genre de choses dont je me souviens. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité, en vérité devant moi, de tout leur cœur, en pleine sincérité, et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Alors, j'ai donné toute une série de sermons sur ce sujet-là il y a 2 ou 3 ans, je crois, à propos de la promesse que Dieu avait faite à David. C'est ce qu'on voit d'ailleurs qui a été répété dans le psaume 89, 4, pardon, et à d'autres endroits. Et c'est en gros également le thème du livre « America and Britain in Prophecy » que nous avons écrit, et à propos duquel M. Armstrong a aussi écrit avec un livre qui ressemblait à celui-là. Donc, nous pouvons distinguer certains éléments ici. On voit le mot « marcher » à une couple de reprises, « marcher dans la fidélité ». On parle de le faire de tout leur cœur, de toute leur âme, en obéissant, en marchant, verset 4, avec fidélité devant moi. Et le mot hébreu « émet » signifie en fait « vérité ». Alors arrêtons-nous et réfléchissons ce que nous avons fait à notre époque maintenant. Nous nous sommes réengagés à marcher dans la vérité. Si seulement les dizaines de milliers de personnes pouvaient se souvenir à quel point la vérité était importante, s'ils avaient pu au moins se souvenir de ces versets-là, Genèse 17, verset 1 jusqu'à 8, ou 1 roi 2, et verset 4, si seulement il avait pu se souvenir de ceux-là. Alors, 2 rois 20 maintenant, 2 rois, chapitre 20, à partir de 1 roi jusqu'à 2 rois 20, on va tomber dans l'histoire de Ézéchias, et nous allons commencer au verset 1. En ce temps-là, Ézéchias, qui était un roi juste, fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ça aussi, c'est toute une conversation, bien qu'elle soit légèrement différente de celle de Genèse 17, n'est-ce pas? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi comment j'ai marché devant ta face. » Avec fidélité, dans la vérité, le même mot, et intégrité de cœur, ou un cœur parfait. Alors, nous retrouvons les mêmes mots ici. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il venait juste de recevoir une sentence de mort de la bouche du prophète de Dieu de son époque. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne !» Et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. » Il y a un modèle de David ici, parce que David n'aurait certainement pas dit à son fils Salomon de faire quelque chose que lui-même n'avait pas fait. Après tout, il était appelé un homme selon le cœur de l'Éternel. Alors, nous savons que Christ descendait de David et que David descendait d'Abraham, si on veut revenir à la postérité. Là. Donc, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Alors, c'est une déclaration encore assez étonnante ici. Il m'est jamais arrivé, moi, de donner une onction à quelqu'un à un moment donné et dire à la personne, « Bon, maintenant tu es guéri et tu vas vivre encore 5 ans, 10 ans ou 20 ans. » C'est quelque chose de plutôt inhabituel. Je suis persuadé qu'Ézéchias, dès ce moment-là, a dû jeter un coup d'œil sur le calendrier et se dire « Hum, je suis bon encore pour 15 ans, puis qui a été marqué l'année. » Et peut-être qu'il s'est même dit « Aujourd'hui, c'est le 17 juillet, bien que ce ne soit pas les mots qu'il aurait utilisés, je suis certain. Il me reste donc jusqu'au 17 juillet dans 15 ans. » Non, je pense qu'il a été vraiment reconnaissant. reconnaissant de pouvoir continuer à vivre. Par contre, il savait exactement quand il mourrait. Alors, il y a plusieurs points qui sont très intéressants dans cette histoire que je lisais il y a quelques jours, incluant ce qui est dit dans le verset 7 où il devait faire lui-même sa part. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alors demandons-nous, qu'est-ce que Dieu exigeait de la part d'Abraham lorsqu'il lui a dit « Sois intègre » hein, ou comme je l'ai mentionné, « Sois parfait ». Si vous vous souvenez, j'avais mentionné que dans la marge, la signification de là, c'était quelque chose de quelqu'un qui était sincère hein, ou intègre, tel qu'il est écrit en français. Quelque chose qui est pur hein, et sans tache. Donc la signification n'est pas réellement parfaite parce que nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tout le monde peut encore pécher. 1 Jean nous dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alors il parle ici de personnes qui ont déjà le Saint-Esprit. Ceux de l'Église de Scientologie croient qu'une fois qu'ils sont convertis, ils ne peuvent plus pécher. Autrement dit, lorsqu'ils deviennent membres de l'Église de Scientologie. Alors c'est des balivernes encore une fois. Et bien entendu, vous en avez d'autres qui ne se préoccupent même pas du péché puisque Christ a tout fait pour leur, à leur place. Mais la vérité, c'est que les chrétiens peuvent pécher et ils pêchent. Mais ils doivent être quand même purs et sans tache, sincères, avoir un cœur sincère. Ils parlent selon la vérité. Nous avons bien des ennemis qui parlent contre nous. Et je suis toujours étonné de voir la façon selon laquelle ils peuvent présenter la vérité. Ils sont absolument capables, à chaque occasion, d'embrouiller les choses, d'altérer la vitesse ou la vérité des événements. Il manque complètement de sincérité. Rappelez-vous qu'il est écrit que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Donc il est très difficile, frères et sœurs, d'être réellement sincère, de faire les choses du fond du cœur. Alors si on revient un petit peu en arrière, si on se fie seulement sur ce qui a été promis à Abraham, ce que Dieu a exigé d'Abraham devait être quelque chose de plutôt incroyable lorsqu'il lui disait de marcher avec un cœur sincère, d'être intègre. Et si nous voulons avoir ce genre de récompense-là, frères et sœurs, il est important pour nous de le comprendre également. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur jour que celui-ci pour le commémorer. Donc, cette alliance était basée sur la promesse de pouvoir hériter la terre entière. Et les conditions pour l'obtenir, c'était de pouvoir marcher ou de vivre avec sincérité et dans la vérité. Il n'est donc pas étonnant que Dieu ait institué la fête des pains sans levain comme étant la fête de la sincérité et de la vérité. Et cela lors de l'anniversaire de cette alliance-là. De cette alliance basée sur la sincérité et de la vérité. Rendez-vous dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Alors, nous avons la description du Nouveau Testament ici pour les jours des pains sans levain. La Bible est un livre tellement fascinant lorsque vous êtes capable d'en mettre toutes les pièces ensemble pendant que Dieu vous guide pour le faire. Donc 1 Corinthiens 5 et verset 6. Nous savons qu'il y avait un problème à l'église de Corinthe. Là, vous avez cet homme-là qui commettait l'adultère avec la femme de son père, qui était sa belle-mère, et il pouvait continuer à assister aux assemblées, et les Corinthiens le toléraient. Et parfois, il est plutôt extraordinaire de voir jusqu'à quel point les membres de l'Église peuvent tolérer certaines choses. Hein, ils vont se dire, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, il n'y a personne qui en parle, personne ne dit rien. Mais pourtant, le gars était là, peut-être même à première rangée en avant. Et le verset 5 nous parle ici de la façon dont on doit expulser cette personne-là. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Alors, on voit ici qu'il semblerait qu'il se glorifiait même de ça. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Comment est-ce que le peuple de Dieu a pu oublier que dès que vous laissez rentrer un petit peu d'erreur, qu'on s'éloigne le moindrement de la vérité, que ce genre de choses va s'étendre et se répandre éventuellement? Voilà pourquoi j'ai affirmé avec certitude que dans tous les autres groupes, dans l'ère de la Odyssée, chacun de ceux-ci vont continuer d'additionner erreur sur erreur. Je ne suis pas un génie pour affirmer ça. Je ne fais que lire le livre ici et j'y crois. Si les gens commencent à s'éloigner de la vérité, c'est parce qu'il y a un seul autre esprit qui peut causer ça. Et cet esprit va continuer à apporter ce genre de choses-là, comme il l'a fait depuis des millénaires. Satan est bon à ce qu'il fait, même s'il n'est pas très original. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête que Paul dit au moment de commencer la fête des pains sans levain. Non pas avec du vieux levain, c'est-à-dire avec du levain physique ici, non avec un levain de malice et de méchanceté. Alors voilà une preuve absolue ici qu'on ne peut spiritualiser cette fête-là. Hein, il y a des gens au début des années 90 qui me disaient « Oh, moi je garde la fête des pains sans levain de façon spirituelle 365 jours par année. En fait, je le fais plus longtemps que vous. Hein? Vous ne le faites que 6 jours de temps. » Et si vous leur demandiez « Combien de jours est-ce que vous sortez le levain de votre maison? » Ils nous répondaient « Oh non, moi, ce serait limiter Dieu de faire cette chose-là. Je le fais à l'année longue. » Et ils vous disaient ça en prenant une bonne bouchée de leur Big Mac. Alors notons bien ici qu'on parle des deux genres de levain. C'est très clair. Mais avec les pains sans levain, de la pureté ou sincérité et de la vérité. Et ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. La fête des pains sans levain, telle qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament, selon une forme différente, est appelée la fête de la pureté et de la vérité. Les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, rendez-vous maintenant dans Psaume 15. Hein? Psaume, chapitre 15. Et nous voyons David qui parle maintenant. Et en passant, vous allez voir, ça s'accorde assez bien avec ce qu'il avait dit à son fils. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Il parle du salut ici. Celui qui marche dans l'intégrité. Exactement les mêmes mots qu'on retrouve dans Genèse 17. Qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Vous vous rappelez de ce qu'il disait à Salomon? Il disait « Marche avec fidélité devant moi ». Et il lui avait ajouté « De tout leur cœur et de toute leur âme ». Le chemin vers le royaume de Dieu est littéralement pavé de sincérité et de vérité. On parle d'honnêteté, de droiture, de sincérité, de pureté, et tout cela fondé sur la vérité. Pourquoi est-ce qu'Ézéchias a pu dire à l'Éternel qu'il avait marché devant lui avec fidélité et intégrité de cœur? Ce n'est pas par coïncidence qu'il avait choisi ces mots-là. Et ça fait en sorte que Dieu l'a guéri. Nous allons jeter un coup d'œil, encore une fois, sur Ézéchias dans le livre des Chroniques. Nous allons nous rendre dans 2 Chroniques, au chapitre 29, et nous allons jeter un petit coup d'œil un peu plus sur ce que cet homme a fait pendant sa vie. 2 Chroniques 29. C'était un homme extraordinaire. Nous allons voir, alors qu'il était tombé malade et qu'il était littéralement sous une sentence de mort, qu'il a pu se retourner vers Dieu et crier vers lui avec assurance, avec confiance, et qu'il a pu littéralement prier avec vérité au sujet de son passé, sachant que Dieu entendrait sa prière et pourrait répondre favorablement. Alors, voyez ce que Ézéchias savait avoir accompli pendant sa vie. Chapitre 29 et au verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Déjà ça, c'est quelque chose qui est inhabituel, si vous avez déjà étudié l'histoire des rois d'Israël. Entièrement comme avait fait David, son père, c'est-à-dire son ancêtre. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Les portes s'étaient détériorées pendant que le peuple allait après les faux dieux. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur, hein, les saletés, hors du sanctuaire. » Il s'en était servi un peu comme si c'était un grenier. « Car nos pères ont péché, et vous avez un jeune homme là, de 25 ans qui s'est redressé, hein, il s'est tenu debout. Parlez-moi de ça, là, quelqu'un qui est capable d'être fort et se montrer un homme. » C'est plutôt incroyable. « Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert aux yeux d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. » Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Alors, on voit que c'est un homme d'action. Il a agi. Alors, si vous poursuivez votre lecture, vous voyez que les Lévites ont obéi. Hein? On peut lire ça dans les versets suivants. Ils se sont levés et ont obéi au verset 12. Le verset 11 leur disait de ne pas être négligents. Ensuite, au verset 20, on peut voir que la mission avait été complétée au verset 18. Et au verset 20, le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils font la même chose pour les autres. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Ensuite, au verset 27, Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes, avec un son franc et fort, et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et pourquoi cela? Parce que vous aviez eu un jeune homme de 25 ans s'est redressé, s'est tenu debout et a dit tout simplement « Nous allons changer tout ». Alors, est-ce que vous croyez qu'il pouvait prier avec confiance? Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. On pourrait poursuivre la lecture, verset 30. Hein? Ils le célébrèrent avec des transports de joie. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Et au verset 31, la fin, et l'assemblée amena des victimes et offrit des victimes d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Verset 34, mais les sacrificateurs étaient en petit nombre. Et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Autrement dit, il y a eu une réponse tellement enthousiaste, il y a eu tellement de monde. Il n'était pas capable de faire tout le travail. Alors, c'est un beau problème à avoir. On se demande parfois, est-ce qu'on doit peser sur l'accélérateur pour l'œuvre? J'y réfléchis, ça me préoccupe. J'ai de la foi. Si nous faisions ça, nous savons que nous pourrions avoir une très forte réponse. Nous savons que nous sommes assis au-dessus d'un réostat qui est tellement puissant que nous pourrions tout simplement tourner un peu le bouton et obtenir comme résultat une véritable explosion. Nous sommes rendus à un point où nous pouvons obtenir des résultats au-delà de toute imagination, grâce à la technologie et 7 années d'entraînement, ainsi qu'à cause de l'expérience et de toutes les leçons que nous avons apprises. Nous continuons à apprendre des façons de faire les choses et de ne pas les faire, mais nous sommes rendus à un point maintenant, lorsque Dieu va nous donner l'argent suffisant pour agir, frères et sœurs, préparez-vous, préparez-vous. Donc, si la réponse est aussi forte que ça, c'est comme les sacrificateurs qui ont été complètement submergés. Et au verset 35, il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Et le verset 36, Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Wham! Comme ça, c'est arrivé d'un coup sec. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Alors c'est un genre de chose qu'on peut faire parfois, soit que parce que vous avez été malade ou parce que vous étiez en voyage. Ou encore, vous faites un jugement, vous posez un jugement d'ordre administratif en disant « Nous ne sommes pas tout à fait prêts encore pour le faire correctement. » Car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Alors tout ça est arrivé soudainement, la chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée et ainsi de suite. Verset 5, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il était écrit. Ensuite, au verset 6, les coureurs, ceux qui transportaient le courrier, allèrent avec les lettres du roi et ses chefs dans tout Israël et Juda. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, verset 10, les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait. Et l'on se moquait d'eux. Autrement dit, ce n'est pas tout le monde qui a répondu de façon favorable. Et c'est le genre de choses qui pourrait arriver aujourd'hui, frères et sœurs. Et dans ça, là, je ne fais pas de parallèle entre Ézéchias et moi-même. Ce que je dis, c'est est-ce que ça ne ressemble pas à aujourd'hui? Cependant, quelques hommes d'Asser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ensuite, au verset 18, car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, disant, « Veille, Éternel, qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur. » Donc, les gens n'étaient pas prêts, mais tous voulaient et avaient une bonne attitude, et tout est arrivé d'un coup sec, hein, subitement. Mais ça a été une réponse extraordinaire. Ensuite, on voit au verset 21 que les enfants d'Israël ont observé la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Ils chantèrent. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. Donc, ils ont célébré la fête des pains sans levain pendant 14 jours, hein? Même si ce n'est pas écrit là ici que 14 jours. Si vous voulez être à la place du peuple qui n'a pas célébré ça depuis je ne sais pas combien de temps, et ils veulent confirmer leur intention, alors c'est ce qu'ils ont fait, hein? Se dire, ça fait longtemps que nous ne l'avons pas fait, concentrons-nous sur le fait de mettre le péché hors de nos vies. Mais ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. Hein? Pas dans le genre, « Ah, oh, qu'est-ce qu'il dit ça encore? Qui c'est qui a amené cette idée-là? Là? » Non, ils ont participé de tout cœur. Alors, chapitre 31 maintenant. « Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, et dans Éphraïm et Manassé. » Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Alors ils adoptent ce qu'on appelle une attitude de nettoyage en profondeur, là. Ils n'ont donc pas adopté une attitude négligente ici, hein? Au contraire, ils s'y sont engagés pour faire les choses avec exactitude, précision et d'une façon détaillée. Ils avaient parcouru tout le pays et ensuite les Lévites se sont installés ensuite, après qu'ils eurent nettoyé, hein, et détruit toutes les idoles. Ensuite, au verset 5, ils prirent soin des Lévites. Hein? On le voit à la fin du verset. Ils donnèrent en abondance les prémices, la dîme, du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Donc, ce fut quelque chose d'énorme. Hein? Toutes les dîmes qui rentraient, ils ont été obligés de les mettre en tas. Et on le voit au verset 6. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tas. Et le mot hébreu qui est utilisé de ces tas par-dessus tas. On commença à former les tas au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. Autrement dit, ça a pris 4 mois pour être capable de compter les dîmes. Alors, on nous raconte une histoire, un récit qui est fantastique ici. Verset Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas. Ensuite, verset 11. Verset 11 parle des chambres pour les mettre dedans. Ensuite, verset 14. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu. Ensuite, vous avez la généalogie des Lévites. Et nous arrivons au verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Et Israël avait déjà été amené en captivité à ce moment-là. Et il les avertissa en leur disant, « Attention, la colère de Dieu s'en vient. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit et ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. » Est-il donc surprenant de pouvoir lire ensuite ce que dit le verset 21, « Il agit de tout son cœur. » Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. De tout son cœur. Et il a prospéré. Alors, nous venons de lire un récit, hein, d'une histoire différente un petit peu. Nous allons voir une autre histoire. Mais lorsqu'il s'était tourné contre le mur pour dire « J'ai marché devant toi dans la vérité, hein, et avec un cœur sincère », il savait très bien ce qu'il disait. Et il comprenait très bien ce que ça signifiait de dire une telle chose. Et il doit en être de même de nous, frères et sœurs. Mais les meilleurs jours pour faire cela, ce sont les jours de pain sans levain. Alors, rendons-nous maintenant au chapitre 34 et jetons un coup d'œil sur Josias. Josias était âgé de 8 ans lorsqu'il a commencé à régner. Son père était méchant, il s'appelait Amon, mais il devint de plus en plus méchant, au point où même ses serviteurs l'ont assassiné. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs au verset 24 du chapitre précédent. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple, qui aimait d'une certaine façon Amon, le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Ils aimaient Amon, et ils n'avaient aucune idée de ce que Josias deviendrait. Il n'avait que 8 ans. Josias ne savait peut-être même pas ce qui se passait. Pour lui, son papa venait de se faire tuer. Il était peut-être en sanglots à ce moment-là. Et tous ceux qui avaient tué son père avaient été tués. Mais ils en ont fait un roi à l'âge de 8 ans. Donc Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Ça veut dire qu'il a vécu 39 ans. Alors, Josias est né en 647 avant Jésus-Christ, et bien qu'il ait vu un très mauvais exemple, il est écrit ici, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. » Alors, il devait être un petit garçon étonnant. La 8e année de son règne, il avait peut-être 15 ans à ce moment-là, comme il était encore jeune, il n'avait même pas l'âge pour conduire une voiture. Il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et on parle d'un jeune de 15 ans ici. Alors on parle d'un être humain vraiment hors de l'ordinaire. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux. Il est toujours adolescent, là. Il avait peut-être 19 ans, peut-être au début de la vingtaine, mais ça me surprendrait, parce qu'on parle dans la 12e année, là, ici. Alors, donc, il purifia Juda et Jérusalem des idoles, des images taillées, des images de fonte. On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en fonte, et les réduisit en poussière. Je lis ça, puis j'ai comme l'impression que tous ceux du pays qui avaient tué les assassins de son père étaient en train de se dire « Oh, le jeune ne prend pas le bon chemin. » Et cela parce qu'il faisait les choses justement de façon parfaitement droite. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et verset 5, « Il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. » C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Alors on peut dire qu'il était perfectionniste. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et il les réduisit en poussière. Non seulement il les brisait, mais il les réduisait en poussière. Ses intentions étaient très claires, et il n'avait même pas encore l'âge d'acheter une bière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. Donc, vous autres, jeunes hommes, vous pensez parfois que vous ne pouvez pas faire de grandes choses? Vous n'avez qu'à vous rappeler de Josias. Ensuite, la 18e année de son règne, il est maintenant âgé de 25 ans, après qu'il eut purifié le pays et la maison, en fait, il a le même âge que Ézéchias quand il a commencé à régner. Donc, nous avons un jeune qui a régné maintenant depuis 10 ans seulement, et il a déjà purifié le pays. On peut voir que la maison de l'Éternel a été rétablie et réparée. Dans les versets qui suivent, on n'a pas le temps de toutes les lire. Vous pourrez jeter un coup d'œil. Et on peut voir que tous ceux qui avaient été engagés pour faire ça ont agi avec probité dans leur travail. On poursuit maintenant au verset 31. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel. Il venait de trouver le livre de la loi. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous lire. Donc le roi se tenait sur son estrade, il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme. Josias a marché selon la volonté de l'Éternel. Et il comprenait très bien le modèle qui lui avait été laissé. Et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. On parle du livre de la loi qui avait été trouvé là au verset 14. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils avaient un dirigeant fidèle, Donc, ils sont demeurés dans la bonne voie pendant la vie de Josias. En chapitre 35 maintenant, verset 1, « Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. » Faisons un petit saut en avant au verset 18. « Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. » Absolument incroyable. « Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette année fut célébrée. » Tout cela sous la conduite d'un roi de 25 ans, qui a totalement évité les voies mauvaises de son père, qui lui ne cessait d'empirer de jour en jour. Ça signifie que les 8 années qu'il a connues son père ont été en fait les pires années d'Amon, et que malgré tout il a été capable lui-même de faire les choses qui étaient bonnes, qui étaient vraies. Il n'y a eu aucune aide de ses parents. On ne voit rien au sujet de sa mère dans un sens ou l'autre ici. Rendons-nous maintenant dans 2 Rois, chapitre 23. 2 Rois 23. Alors, on va lire encore un petit peu au sujet de Josias. 2 Rois 23. Alors, vous pouvez voir que le contexte est vraiment Josias, si vous jetez un coup d'œil au chapitre 22. Alors, juste pour le contexte, hein, 22.1 dit « Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. » Alors, nous avons lu le récit dans Chroniques. Et nous lisons le même récit ici dans Rois. Hein, on dit « Il régna 31 ans à Jérusalem. » Et ensuite, nous allons au chapitre 23. « Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. » Alors, c'est extraordinaire, hein? Lorsque le roi lit, vous écoutez. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance, hein? Tout le peuple. Alors, nous allons maintenant au verset 31, parce que les autres versets décrivent ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait en détruisant les hauts lieux, les idoles. Puis, au verset 7, vous avez ici les sodomites, hein, les prostituées masculines qui sont là, qui avaient construit une maison qui était attenante au temple, la bande d'homosexuels locale. Alors, ça vous donne une idée de l'environnement qui était à l'époque. Un peu comme s'ils avaient mis San Francisco juste à côté du temple. Il a bâti les maisons des prostituées, qui étaient dans la maison, ou attenante à la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Alors, ensuite, vous avez les autres versets, que vous pouvez aussi lire, parce qu'on a couvert quand même la majorité. Ça raconte le travail que Josias a fait pour remettre Juda sur la bonne voie. Donc, le verset 21, « Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. » Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Incroyable. Verset 25 maintenant. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Et il a fait toutes ces choses alors qu'il était encore adolescent. Souvent, je parle avec les adolescents, hein, qui vont dire « Ah, je peux pas faire grand-chose » ou « Je suis juste un adolescent » ou « Je suis dans l'église de mes parents ». Il y en a plusieurs qui pensent comme ça. Donc, j'espère que vous, les jeunes, vous entendrez ce que c'est que je suis en train de dire ici et que vous allez être capable de comprendre. Il n'y a pas de limite à ce qu'un jeune peut faire. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur Jérémie ou Timothée, bien que ce ne soit pas le sujet du sermon ici. Alors, rendons-nous maintenant dans Psaume 51. Psaume 51. À toutes les fois que vous aurez tendance à limiter ce que vous pouvez faire, vous n'avez qu'à penser à Ézéchias et à Josias. Et si vous voulez y ajouter Jérémie ou Timothée et certains autres, parfait. Donc, Psaume 51. Psaume 51, un autre psaume de David ici. C'est un psaume de repentir, et prenez note de ce que David dit. On commence au verset 5. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » C'est un point important, frères et sœurs. Si vous jetez un coup d'œil à l'Église lors du dernier siècle, hein, ce qu'elle a traversé, vous avez eu énormément de gens qui ont fait preuve de vérité, mais de l'extérieur. Ils pouvaient se tenir debout devant des lutrins comme celui-ci ou en avant, et même faire face à des publics qui étaient beaucoup plus importants que celui-ci aujourd'hui. Et ces gens pouvaient être aussi éloquents qu'Apollon apportant un décret de l'Olympe. Mais ils ne vivaient pas selon les paroles qu'ils prononçaient. Ils n'étaient pas capables de comprendre que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. C'est l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Les Juifs sont la preuve, depuis plusieurs siècles, qu'on peut avoir l'apparence, hein, le vêtement, le survêtement de ce qui a de l'air pieux et vrai, mais qu'à l'intérieur, on ne retrouve que des ossements d'hommes morts, comme Christ le dit. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Hein? Voilà ce qui est dit ici. Retournons maintenant dans Exode 13 et essayons de relier ça à nouveau au pain sans levain. Exode 13, nous allons essayer de relier plusieurs parties du sermon au fur et à mesure que nous approchons de la fin maintenant. Donc, Exode 13, « Quand l'Éternel t'aura, verset 5, t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères, hein, on parle d'Abraham, Isaac et Jacob ici, on a vu ça. En passant, je pense que je ne vous ai jamais dit ce que c'était que 1683 et 240, non, n'est-ce pas? Alors, je suis certain que ça va vous empêcher de dormir jusqu'à ce que vous le sachiez. C'est ce qu'on pourrait appeler des bonus. Ils ne font pas réellement partie du sermon, mais j'ai voulu vous les donner au cas où vous voudriez en avoir sept de bons au lieu de juste cinq. Jacob et les siens se sont rendus en Égypte en 1683 avant Jésus-Christ, ce qui est 240 ans avant l'Exode. Alors, vous savez ce qu'ils sont maintenant, bien que j'aurais aimé en parler un petit peu plus, mais malheureusement, ils n'avons pas suffisamment de temps. Donc, Jacob étant un des autres pères à qui les promesses ont été faites, avec Isaac entre les deux. Alors, verset 6, « Maintenant, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, vous devez manger des pains sans levain à chacun des 7 jours. » J'ai déjà couvert ça auparavant. Ce n'est pas juste une question d'éviter le levain. Vous devez effectivement manger des pains sans levain. Certains ne croyaient pas cela. Ils disaient tout simplement, les jours où vous allez manger du pain, assurez-vous tout simplement que ce soit des pains sans levain. Alors, notez bien soigneusement, verset 7, « On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, et on ne verra point chez toi de pain levé. » Donc, les deux choses sont vraies. Et essayons maintenant de comprendre encore ce qui est plus important, la raison de cela. « Et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays, hein, dans tout ton coin à toi. Tout devait être sorti. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » À chaque fois que vous prenez une bouchée de pain sans levain, Dieu voulait que ce soit le symbole, la même chose que si vous preniez une bouchée de sa loi, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans votre bouche, autrement dit, dans votre esprit. Rappelez-vous ce que nous avons vu lors de la Pâque, hein? Je suis le pain vivant. Bien sûr, le Christ est le pain sans levain. Vous me mangez, hein? Vous, lorsque nous faisons ça, nous mangeons Christ également. Mais nous absorbons la loi de Dieu aussi. Et nous pouvons observer cette loi seulement parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je me souviens être en train d'essayer d'expliquer ça à des gens, hein, et je leur disais, est-ce que vous êtes en train de me dire que nous ne sommes pas supposés prendre le pain sans levain, qui est un type du corps de Christ, pendant les 7 jours? Que nous ne sommes pas supposés d'avoir Dieu dans notre esprit pendant tous les 7 jours? Je me souviens très bien de cette séance de counseling-là, hein, ça les a gelés sur place. Et là, je lui ai dit, et puis, qu'est-ce qu'il en est de la loi aussi? Alors, je lui ai dit, si tu n'es pas prêt à accepter le verset 7 qui dit qu'on mangera des pains sans levain pendant 7 jours et qu'on ne verra pas chez toi de pain levé, je suis certain quand même que tu penses que les 7 jours de la semaine, on doit avoir la loi de Dieu dans la bouche, dans notre esprit. Je suis certain que vous ne croyez pas que 5 jours par semaine serait suffisant, hein, ou 4 jours par semaine qu'on doit avoir Christ dans notre esprit. Que Christ fasse partie de nos vies seulement 4 jours, ou 5 jours, ou 6 jours par semaine? En fait, il n'y avait personne qui m'avait répondu, hein? Personne. Alors, vous aviez 12 autres hommes qui étaient dans la pièce à ce moment-là. Et c'était un moment assez dramatique. Mais je ne pouvais même pas croire que personne n'était d'accord avec moi. Il y en a juste un qui a dit, c'est intéressant ça. Non. Alors, rendons-nous dans Jérémie 31 maintenant. Et nous allons lire aussi au verset 31. Jérémie 31 et verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. En commençant, bien entendu, avec l'Israël spirituel, l'Église. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'était une alliance physique à ce moment-là. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître ou leur mari, dans le fond, ils m'ont trahi, ils m'ont trompé avec des faux dieux, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que nous ayons au-dedans de nous? La vérité et sa loi. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est exactement ce qu'il a dit à Abraham. Vous n'avez qu'à aller retourner en arrière et voir ce qu'il a dit. Il a dit, je serai leur Dieu. Et comme le dit Galate, tous ceux qui veulent obéir peuvent devenir les enfants spirituels d'Abraham. Parce que si vous avez l'Esprit Saint en vous, vous êtes un descendant direct spirituellement d'Abraham. Ça n'a aucune importance que vous descendiez ou non de lui physiquement. Donc, les pains sans levain sont l'illustration même de cette alliance-là que nous voyons ici. Alliance qui sera mise en vigueur dans le millénium, et cela dans quelques années à peine. Et cela va se faire sur une échelle internationale. Ce sera le moment où Dieu va écrire sa loi à l'intérieur des gens. Cette loi de pureté et de vérité. Et cela va être écrit au-dedans de chacun des individus, en commençant par Israël et Juda. Alors, 2 Corinthiens chapitre 3 maintenant. Nous allons nous rendre dans le Nouveau Testament pour plusieurs versets. Et nous allons revenir pour terminer plus tard dans l'Ancien Testament. Donc, 2 Corinthiens 3. Et nous allons commencer au verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Paul est en train de leur dire, est-ce que je dois me revêtir d'une peau de brebis ou apporter des lettres de recommandation parce que je vous dis que vous devez m'écouter parce que je suis un apôtre? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Si vous voulez savoir si Paul est un apôtre, vous n'avez qu'à regarder toutes les églises qu'il a fondées et tous les gens qui ont produit du fruit dans leur vie. Voilà la recommandation. Il n'y a aucune pièce de papier qui pourra faire mieux que ça. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Est-ce que vous vous considérez, vous, frères et sœurs, parfois comme étant une lettre de Christ? À cause de la façon dont vous vivez vos vies, vous êtes une lettre de Christ écrite à tout le monde, pour tous ceux qui sont prêts à le remarquer, pour qui ça a de la valeur. Une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà où Dieu écrit. Il écrit sur les cœurs des gens. D'abord dans l'Église du Nouveau Testament, puis ensuite dans Israël et Juda, puis ensuite dans le monde entier pour le restant du millénium. Chapitre 4 maintenant, et au verset 4. On passe de 3:3 à 4:4. Alors, le verset 3 commence par parler de l'Évangile qui est encore voilé. « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », c'est ce que l'Évangile fait, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup plus significatif que vous pourriez penser, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous vous souvenez sans doute d'un sermon qui s'intitulait « Revêtir les armes de lumière ». Littéralement, nous devrions avoir Dieu qui resplendit dans nos cœurs, et pouvoir redonner cette lumière de connaissance par nos vies, en étant littéralement la meilleure des lettres que Dieu a pu écrire par Jésus-Christ. Nous sommes donc ainsi l'épître de Christ. Alors, continuons de développer. Alors, nous savons très bien que la loi de Dieu est une lampe. Hein? Vous connaissez les psaumes? On pourrait y aller, hein, où c'est écrit « Ta loi est une lampe à mes pieds ». Donc, la loi de Dieu resplendit hors de nous, lorsque sa lumière resplendit hors de nous également. Rendez-vous dans 1 Jean 1 et au verset 5 maintenant. Dieu avait dit à Abraham de marcher dans la vérité et d'être intègre, être sincère. Et cela doit être fait du cœur. Hein? Donc, 1 Jean 1 et verset 5 maintenant. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alors, j'ai parlé dans un sermon récent hein, de certaines choses avec lesquelles nous sommes capables d'établir une équation. Dieu est amour, Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous marchons dans la lumière. Et si Dieu est lumière, alors ça va resplendir hors de nous. Alors, poursuivons, vous allez voir, ça devient fascinant. Et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. En d'autres mots, nous marchons dans la vérité ou ce qui représente la loi divine, hein, la loi de lumière, parce que Dieu est lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, alors ça voudrait dire quoi? Ce serait Dieu qui resplendit à travers nous, comme nous venons de voir dans 2 Corinthiens 4. Donc, si nous marchons dans la lumière, nous allons retransmettre cette lumière-là. Et cette lumière est Dieu qui sort par notre intermédiaire, puisque Dieu est lumière. Et cela sort de nous. Alors, surveillez la façon dont ça se développe maintenant. Et comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Voilà la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons communier entre des personnes de lumière. Pas question pour nous d'aller où les gens tolèrent le levain. On ne doit pas être dans le monde. On ne peut pas faire partie du monde. On ne peut marcher selon le monde. Rappelez-vous que nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons être du monde. Pas plus que nous pouvons aller communier avec des gens qui vont laisser le levain pénétrer leur façon de penser, parce que nous devons marcher dans la vérité. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. À toutes les fois qu'il y a eu un péché, Dieu, le Christ, nous purifie de ce péché-là et nous retournons en marchant à nouveau dans la lumière. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les jours des pains sans levain suivent la Pâque. Ça n'a jamais été l'inverse, ça ne pourra jamais être l'inverse. La Pâque, en quelque sorte, initie notre marche. Et immédiatement après, le plan merveilleux, hein, le plan magistral de Dieu nous rappelle par les pains sans levain, qui en passant doivent durer 7 jours, parce que normalement, lorsque vous avez un jour saint de Dieu qui ne dure qu'une seule journée, cela symbolise un événement, et lorsque ça représente un événement plus long, sur une plus longue période comme la fête des tabernacles, ou comme les pains sans levain, cela illustre une période, hein, une durée, ou un processus. Et bien entendu, nous devons vivre notre vie entière en mangeant du pain sans levain. Ou autrement dit, vivre selon la loi de Dieu. Alors, jetons un coup d'œil maintenant dans Jacques 1 et verset 17. On parlait de Dieu qui était une lumière. Alors, jetons un coup d'œil sur Jacques 1, 17. Alors, Jacques 1, 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Alors, voilà un autre point intéressant, hein, parce que Dieu s'appelle lui-même le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et nous savons qu'il n'est pas seulement le Père des Lumières, mais il n'y a absolument aucune ténèbre dans lui. Il est la lumière parfaite, ce qui signifie qu'il nous donne également sa loi parfaite. Donc, il est le Père des Lumières, mais peut-être on peut se demander, quelle lumière? Nous savons que Dieu est lumière, hein, au singulier, comme on l'avons vu ailleurs, mais lorsqu'il dit qu'il est le Père des Lumières, au pluriel, alors c'est quelque chose de différent. Alors, de qui ou de quoi parlons-nous? Ça devrait quand même être évident. Donc, Matthieu 5 et verset 14 maintenant. Matthieu 5, 14. Alors, si on jette un coup d'œil sur le 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre, si vous perdez votre saveur, jetez dehors, ça n'a plus rien. » Puis verset 14, il dit « Vous, au pluriel, êtes la lumière du monde. » en parlant du peuple de Dieu, de chacun d'entre vous. Donc, de quelle lumière, au pluriel, Dieu est-il le Père? Il s'agit de tous les chrétiens. C'est nous tous, à travers qui sa loi et sa lumière resplendit. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il n'est pas question pour un chrétien d'être une ville avec les persiennes fermées. Nous devons être chrétiens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cela dans notre façon de parler, de penser, de paraître. À chaque fois que vous vous revêtez, que vous mettez du linge, vous devriez vous demander, est-ce que c'est ainsi que je dois avoir l'air? Est-ce que c'est ainsi que je dois être? Chaque parole que nous prononçons, chaque endroit que nous allons visiter, tout ce qui nous constitue, et cela 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, nous sommes une lumière. Nous sommes le reflet de Dieu. L'êtes-vous? Est-ce que vous reflétez Dieu et parfois il y a un petit peu de ténèbres en vous? Il n'y a aucun ténèbre en Dieu. Peut-être que vous voyez la raison pour laquelle nous devons être très prudents. Toujours aussi prudents que Josias et Ézéchias. Nous sommes les lumières du monde. En tant que collectivité, nous sommes la lumière du monde. Verset 15, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et devinez quelle est la maison lorsqu'on parle de nous, frères et sœurs. La maison, c'est le monde entier. Parce qu'il est écrit que nous sommes la lumière du monde. C'est ainsi que la maison est définie ici. Hein? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous n'avez pas l'autorisation d'être honteux, d'avoir honte d'être un chrétien. Je me demande quelles ont été les pensées d'Ézéchias et de Josias dans leur situation. Hein? Se dire, j'en viens pas, là. Je suis ici et le pays entier est en ruine. Et la colère de Dieu est à la veille de tomber sur nous. Et vous avez eu tout à coup un homme de 25 ans et un autre jeune homme de 15 ans qui se sont dit, peut-être que si j'élève la voix, que je prends l'initiative, peut-être y en a-t-il qui vont écouter et que je pourrai changer des choses et que d'autres me suivront. C'est ce qu'ils ont fait, mais nous en avons lu l'histoire. Rappelez-vous, frères et sœurs, que nous sommes des lumières, en autant que la loi de Dieu, sa façon de vivre selon la pureté et la vérité resplendit hors de nous. Rappelez-vous que la lumière provient de l'intérieur et resplendit vers l'extérieur. Je n'oublierai jamais cette citation-là. Elle provenait d'un juge en cour juvénile qui parlait de la jeunesse d'aujourd'hui. Elle était juge au Texas. Alors quand les jeunes se présentaient devant elle dans sa cour, elle regardait leurs yeux. Alors c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on parle toujours d'un juge qui était charnel, qui jugeait des êtres charnels, des jeunes, des juvéniles, des délinquants, tous des membres de gangs qui avaient une conduite absolument horrible. Et elle disait, ce qui m'a frappé, c'est que je regardais leur visage et il n'y avait aucune lumière dans leurs yeux. Il n'y a pas de lumière dans les yeux de nos jeunes aujourd'hui. Elle n'avait pas la lumière de la loi divine qui sortait d'elle, mais elle voyait ses yeux noirs, sombres et ténébreux devant elle, des yeux morts. Alors, on parle justement de la dernière génération ici. La fête des pains sans levain, hein, les 7 jours, tout comme le premier jour saint et le second jour saint, ont pour but d'augmenter notre ampérage, pour nous rappeler ce que nous sommes en train de faire par ces jours-là. Pour nous montrer par ces jours-là ce que nous sommes en train de faire. Dieu nous nourrit de pain sans levain, ce qui est la lumière de sa loi, et c'est la raison pour laquelle nous avons des sermons lors de ces jours-là. Un dernier verset maintenant. Nous allons nous rendre dans Josué, chapitre 24. Nous allons conclure le sermon de la même façon dont Josué se conclut. Donc, nous nous rendons dans Josué, au chapitre 24. Et nous allons commencer au verset 1. Josué était à la veille de mourir, il avait 110 ans, il approchait de sa fin. C'est un des grands serviteurs de Dieu qui était à la veille de mourir, un peu comme Moïse l'avait fait à la fin de sa vie. Il avait rassemblé les gens, il avait prêché, puis ensuite il était mort à l'âge de 120 ans. Josué mourait à l'âge de 110 ans. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Donc ceux-là ne se voyaient pas comme se présentant seulement devant Josué, mais devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, on parle de l'Euphrate ici, et ils servaient d'autres dieux. Donc, lorsqu'Abraham est parti de chez lui, qu'il a laissé sa famille et tout ça, il a aussi laissé d'autres dieux derrière lui. Il n'a pas laissé le vrai Dieu. Il est parti pour servir le vrai Dieu et il a laissé des faux dieux derrière lui. Ensuite, Dieu dit au verset 3, « Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte. » Alors Dieu est en train de raconter l'histoire ici, au moment où le grand homme est en train de mourir. Vous vous rappelez ce que David a dit à Salomon? « Et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, hein, des millions et des millions d'individus. Et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et vous restâtes longtemps dans le désert, 40 ans. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éthiens, les Guergasiens, les Héviens, les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons. Peut-être qu'un jour, Dieu fera ça encore. Croyez-vous que ce ne sont pas des choses qui ont été écrites pour que nous nous en rappelions? Qu'ils les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Alors arrêtons-nous un instant maintenant. Il y a deux ordres, deux commandements qui s'en viennent là. Et je pense, après les sermons récents que vous nous avez eus, que vous êtes en mesure de bien comprendre le premier, le second devenant évident par lui-même. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Donc, intégrité et fidélité, ou comme l'anglais le dit, vérité, ça a toujours été la norme. On parle des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux de grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples. » Les gens avaient beaucoup de choses à dire, non? « Et les Amoréens qui habitaient ce pays. » Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » Il ne vend pas encore cette occasion spirituelle là, à ce moment-là. « Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Verset 23, « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et il lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, et si vous vous rappelez, cette pierre-là était ce que nous appelions le pilier de Jacob. C'était la pierre que Jacob avait prise pour ériger un monument. Alors, j'ai déjà donné plusieurs sermons pour prouver ce genre de choses-là, et on voit cette pierre-là qui réapparaît un peu partout. Donc, il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre. » Et cette pierre, nous la retrouvons aujourd'hui en Angleterre, sous le trône, hein, le trône de couronnement. Donc, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Alors voilà toute une série de versets extraordinaires ici. Dieu nous a donné les pains sans levain, frères et sœurs, les jours des pains sans levain, pour nous rappeler ce à quoi nous nous sommes engagés, afin que le malheur ne nous tombe pas dessus, mais qu'il passe par-dessus nous, hein, le Passover. Nous sommes tombés d'accord pour servir Dieu. Nous avons accepté de servir Dieu avec sincérité et avec vérité. Et ces jours sont le reflet de notre engagement dans lequel nous sommes entrés lors de notre baptême, que ce soit un baptême récent ou il y a déjà des décennies, comme c'est le cas pour certains d'entre nous. Nous sommes donc des témoins contre nous-mêmes. Donc la fête des pains sans levain devrait nous rappeler à vous et à moi notre alliance d'obéissance afin que nous n'oublions pas un jour l'importance de la sincérité et de la vérité et que nous devenions infidèles à notre Dieu.